Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Oh, on est bien là quand même. On est avec Denis Charvet. On est avec Adrien Aigouin. On est sur RMC comme tous les jours, vous le savez, de 15h à 18h. Mon petit Pierrot, nous accueillons Rico Del Prado, le seigneur du Prado.
Hey, seigneur, comment ça va, mon médecin? Salut Denis, salut Pierrot, salut Adrien.
Ça va, Eric?
Ça va, t'es en forme ou quoi?
Ah, grande forme. Écoute, en plus, j'ai entendu qu'il y avait la pêche à toi dès qu'arrive le week-end. Hein. C'est comme à l'école, ça. Hein. Hein, ça travaille pas beaucoup la semaine. Dès qu'il y avait la sonnette, ça partait courant.
Il a la super pêche. Il n'a pas la pêche.
Il a pas la pêche, il a la super pêche.
5h moins le quart, quand t'attendais la sonnette, comment ça, t'étais... le cartable était déjà fait. Là. Et dès que tu partais comme le bon.
Il y avait quoi dans ton cartable,
toi? Je me rappelle que j'ai fait au moins deux saisons scolaires sans l'embout de la flûte.
Ah oui,
en deux saisons je l'avais plus.
Ah oui, du coup
attends.
Mais qu'est-ce que t'avais pu en faire?
Mais oui, qu'est-ce que t'avais pu en faire? Et du coup, tu souffrais d'un quoi alors du coup?
Je suis sûr que Denis, t'es un bon élève. Denis,
très bon élève.
Bon élève, organisé. Tu ranges tes cahiers et tout. Denis, c'est un
foyau.
Ouais, c'est un lèche. Denis, c'est un lèche. Denis.
Non,
dis-moi.
Non, c'est pas derrière. Non, j'étais pas devant.
Dis-moi le bout de la flûte, c'est pas au catéchisme que tu l'as perdu.
Éric, tu vas répondre à la question moyenne du jour.
Oui, au catéchisme, j'arrivais les mêmes mines.
Éric,
oui.
Question moyenne qui concerne.
Tu repartais les mêmes plaines.
L'Olympique de Marseille. L'OM, ton club.
Pardon,
selon toi,
oui.
Si l'OM bat le Paris Saint-Germain dimanche,
oui. Non, champion de France.
Pour toi, est-ce qu'automatiquement l'OM terminera dans le top 5 de la Ligue 1 à la fin de saison?
Oui.
L'Europe, oui, pour Éric Dimeco.
Bah oui, quand même.
Boucher RMC, dis-moi, l'OM si tu... est européen. Voilà.
Mais non, mais en plus, avec les absents qu'il y a à ce moment-là de la saison, après la petite trêve, là, si tu gagnes, embellis jusqu'au bout. Embellis. Et je vais te dire même
ça défile, ça défile.
Ça ferait combien de points de retard sur le PSG? Je pense que c'est jouable.
Ah, là, il y a un flamme.
Là, c'est pas crédible.
Sur X, vous répondez non, c'est pas automatique à 62%. Pierrot, tu as convaincu la France du Moscato Show. Voilà.
Alors, le programme cet après-midi, Vincent, le rugby, les internationaux, faut-il tout revoir à zéro? Tu vas écouter le témoignage de Grégory Aldrit, Vincent, et puis ensuite, 17h. Mbappé a-t-il l'attitude d'un capitaine? Est-ce que c'est ça que vous attendez d'un capitaine de l'équipe de France ou du Paris Saint-Germain? Journal moyen, deuxième édition. Adrien?
Du l'OM-PSG, l'histoire des classiques, avec l'épisode 2004. Pierrot, je sais que tu as vécu ça avec passion. 2004, Fiorez, Vaïd Ali Dodzic.
C'était Dallas,
cette histoire. Rendez-vous à 16h45 avec un phénomène. Fabrice Fiorez qui a participé à Rotten sans flamme et qui est excellent. Rendez-vous 16h45.
Et puis, bien sûr, le Kikadi vous offre votre paire de baskets Wiz pour vous inscrire Kikadi par SMS au 7 32 16. Et vous avez peut-être entendu l'alerte coffre RMC qui vient de retentir. Je vous rappelle, voilà, l'alerte c'est ceci, mais ça peut encore retentir pendant le Moscato Show. Dès que vous l'entendez, vous avez 5 minutes pour vous inscrire au jeu du coffre RMC et peut-être gagner la somme de 50 000 euros. Ça peut arriver à tout moment. Tout de suite, Vincent, la fatigue, un mal qui touche les sportifs de haut niveau.
Quand on a vu les images, ça nous a fait mal.
Ah bon ?
Les joueurs étaient partis en club directement et n'avaient pas fait ce travail d'acceptation, de dépassement, de digestion.
Tu sais, je suis fatigué des aventures sans lendemain, je suis fatigué du showbiz.
Au niveau international, c'est le chaos, donc il faut vivre le chaos ensemble.
Moi, je suis fatigué, très fatigué, et je me recouche.
On était tout le temps sur la brèche, on était parfois sur la cime.
Ils essaient de t'expliquer quelque chose qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes.
On était parfois sur la tranche, on a vécu un tournoi d'enfer.
T'es pas chez ta mémé, là, hein. faut pas qu'il se croie dans son salon, hein, chez lui.
J'ai été très serviable, très compréhensif, maintenant je suis très fatigué.
Toutes les grosses performances qu'on a fait, à un moment donné, les cinq grégaires, on est des Gaulois.
On n'a pas un groupe à péter le boulard, quoi.
Moscato, il va te le régler le problème.
Ça arrive parfois dans la vie d'être sur la tranche comme ça.
La tranche.
Sur la cime.
C'est le spécial rugby. Avec Midi Olympique, nous accueillons Pierre-Laurent Gou. Salut Pierre-Laurent.
Pierre-Laurent.
Le gars. Comment il va?
Bonjour les gars.
Salut Pierre-Laurent.
Alors on va se prendre pour les dirigeants du rugby français aujourd'hui pendant un quart d'heure. Parce que Grégory Aldrit s'est confié à RMC Sport sur ses difficultés à digérer la Coupe du Monde, ainsi que sur les cadences des internationaux français. C'est un problème récurrent, un problème qui existe depuis plusieurs années. Mais on se pose la question, faut-il tout revoir à zéro ? On a vu, Vincent, avec l'exemple Antoine Dupont, que rien n'est figé, qu'il y a des possibilités, hein, à condition que tout le monde soit d'accord.
Mais non, aucune.
Et de faire les efforts financiers. Faut-il tout revoir à zéro, Vincent, règle le problème sur RMC. Nous sommes en direct de La Rochelle avec Romain Asselin. Salut Romain.
Salut tout le monde.
Et donc, c'est en faisant avec Grégory son bilan de la Coupe du Monde et du tournoi qu'il t'a parlé de son temps de jeu et de celui des internationaux français.
Et qui de mieux placé que lui pour évoquer les cadences infernales du calendrier ? Aldrit, figure majeure du 15 de France, 49 sélections, capitaine pendant le tournoi. Aldrit, capitaine aussi du Stade Rochelet, le club qui a joué le plus au monde depuis 2020. On l'a fait rebondir justement sur les propos de Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus l'a répété après le 6 Nations, on va le réécouter dans un instant. Il veut amener la quasi-totalité de son effectif actuel en capacité de gagner la Coupe du Monde 2027 en Australie.
Nous allons tout faire pendant 3 ans pour essayer de trouver le chemin. Il faut les aider à mieux récupérer, à mieux se régénérer, à mieux se préparer et donc à mieux jouer. Attention de matcher avec toute leur puissance. Pas arriver dans un état qui ne leur permettra pas, malgré leur meilleure volonté, d'être la meilleure nation au monde.
Donc le chemin de Galthié, il est clair, hein, c'est moins jouer pour ne pas arriver épuisé, un appel du pied au club, ça vaut encore davantage pour les trentenaires. Aldrit fera partie de ce cercle-là en 2027, lui-même prône une gestion raisonnée du temps de jeu des Bleus.
Pour le club, c'est hyper important d'avoir des joueurs qui jouent au niveau international. Quand ils reviennent, ils ont un statut et un niveau qui est différent. Pour l'équipe nationale, c'est important qu'on joue aussi un club pour continuer à se développer. On doit jouer pour notre club et puis on veut jouer pour notre club aussi. C'est quelque chose qui doit être fait dans la main et de façon intelligente. Et j'ai la chance d'être dans un club qui comprend ça et qui le gère plutôt bien jusqu'à maintenant.
Et oui, rappelez-vous de sa coupure post-Coupe du Monde, 2 mois pour se régénérer en accord avec son club. Aldrit tournait sur une moyenne de 29 matchs par saison depuis 2020. À titre de comparaison, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Hardy Saveal, numéro 8 des Blacks, c'est 20 matchs par saison. Alors, est-ce que son cas à Grégory Aldrit peut faire jurisprudence ? Lui, il n'appelle pas à généraliser, ça doit rester du cas par cas, dit-il, mais ça lui semble évident qu'il faut appuyer sur le frein.
Dans les autres nations, les joueurs arrivent à 30 ans, ils ont à peine 100 matchs en club. Nous, on fait 100 matchs en club quand on a 25 ans. Donc, il y a aussi cette notion à prendre. Maintenant, ce que Fabien a fait, déjà, de laisser certains joueurs au repos lors des tournées d'été, ça, c'est des démarches intelligentes et qui nous permettent de durer un petit peu plus dans le temps.
Un point important, sachez qu'en aparté, Fabien Galthié pousse les joueurs à s'affirmer auprès de leur club pour ménager leur temps de jeu, quitte bah, par exemple à revoir leurs prétentions salariales à la baisse. Quand dans le même temps, c'est là que c'est assez fou, le PCR, c'est l'organisme qui organise les Coupes d'Europe, travaille sur une Coupe du Monde des clubs, un projet qui paraît hors du temps et pas loin d'être surréaliste même pour Aldrit.
Il faut aussi réfléchir avec l'intérêt des joueurs, des clubs, de la sélection et pas forcément aussi avec le portefeuille. Si on veut rajouter des matchs quelque part, au bout d'un moment, il faut en enlever aussi d'un autre côté. On essaye de faire passer le message. Si on nous demande, on le dit. Est-ce qu'on est vraiment écouté? Je sais pas, mais on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des grosses blessures maintenant. Donc il faut que le monde du rugby réfléchisse côté humain un petit peu.
Galthié parle de chemin, Aldrit d'humain. Bah, je vous propose une fusion pour conclure. Reste à trouver un chemin humain pour amener un groupe compétitif et à 100% en Australie.
Et voilà, un chemin humain, une flèche du temps, Vincent, réinventer ça, en fait, tout simplement. Première question avant de parler des solutions. Est-ce qu'il a raison déjà dans son constat quand il dit nous, à 25 ans, on a 100 matchs en club, les autres nations attendent 30 ans. Est-ce que ça compte, oui ou non, réellement dans les performances du 15 de France?
Comment on pourrait dire le contraire? Comment on pourrait dire le contraire? Les mecs, ils ont toujours plus de combats, toujours plus de collisions, toujours plus de matchs de très haut niveau, de rapidité, de commotion, toujours plus. Mais comment tu voudrais que je dise, mais non, je suis contre Aldrit, Aldrit, il faut qu'il joue davantage, il faut que machin. Mais 29 matchs, il a fait.
Oui, en étant géré, matchs, hein. En étant géré, dernier, 29 matchs.
L'an dernier, 30 fois, 1h30, à se rentrer dans le citron. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Même, plaquez-vous, là, dans le jardin pour vous rigoler. Et puis, tu te fais 25
plaquages. Mais attends, Vincent, je pense que t'as pas bien compris, c'est 29 matchs en club, hein.
En club.
Un club, c'est tout confondu.
Ah, c'est tout confondu.
En moyenne par saison.
Mais,
mais
sur les trois dernières saisons.
Les gens qui comprendraient pas. Et encore une fois, le sport, ce sport-là est un sport merveilleux, au même titre que la boxe, que le judo, que tout ça. Mais c'est des sports de collision. Donc il faut soigner, faut et voilà, faut faire attention à la machine. Ce sport va de plus en plus, chaque décennie, c'est encore plus, il y a encore plus de blessés parce que ça va plus vite. Autrefois, c'était des voitures de course qui sont rentrées dedans. Maintenant, c'est des camions, mais avec des moteurs de voitures de course. Donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Les mecs, ils vont plus vite, ils sont plus lourds, ils sont plus hargneux, ils sont plus méchants.
Donc tu partages le constat déjà pour commencer.
Mais je partage ce constat. Le problème, c'est que t'es pris par l'oseille.
C'est ça la question. Mais le problème,
mais à un moment donné, oui, mais faudrait une économie supérieure qui te permette de reposer certains gosses, d'avoir encore un peu plus de contrats, d'avoir le double de contrats. C'est bête de prendre toujours les États-Unis, mais enfin, c'est des hommes. Donc les mecs, ils ont le double de contrats professionnels dans un club de football américain et ils jouent 18 matchs par an. Et ils ont le double de contrats.
Tu mets pas une règle limitant le nombre de matchs maximum par saison. Laisse-moi finir au moins la question. Si tu fais ça, est-ce que automatiquement les salaires vont pas baisser?
Bien sûr que oui.
Est-ce que tu peux pas t'en sortir comme ça?
Le joueur, si tu récupères de l'argent
pour prendre des contrats.
Mais le joueur aujourd'hui, il veut plus d'argent qu'avant. Le problème, c'est.
Mais oui, mais si son club ne lui donne pas, il l'aura pas.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais
si son club, il est contraint à ne pas le faire jouer plus de temps de match, il lui donnera pas plus d'argent.
Oui, mais aujourd'hui, c'est le club qui paye, Pierrot. Tu peux raconter.
C'est ce que je t'ai dit.
Oui, mais le problème, c'est un arrangement avec la fédération. C'est que la fédération n'a pas l'argent ou la vocation à payer les Jeux internationaux. Ils le font déjà, puisque ça coûte quand même, quand le stade toulousain envoie 10 joueurs par an, ça coûte 2 millions d'euros.
Conséquente,
Il paye quand même 2 millions d'euros, la fédération, ce qui est pas rien. Ben, c'est la fédération, c'est ça.
Plus une exception pour Dupont, en plus.
Le problème, si tu veux. Pour moi, la référence absolue aujourd'hui, qui la réponse au débat, c'est l'Irlande. C'est les provinces irlandaises. Pourquoi ils durent? Pourquoi ils perdurent dans le temps au niveau physique?
T'as pas la culture de l'Irlande.
Mais c'est pas ça, c'est que le problème, ils jouent beaucoup moins.
Ils jouent toujours ensemble.
Mais ils jouent beaucoup moins. Ils font 17 matchs par an, je crois. Mm-hmm. C'est ça,
c'est ce que fait sur Long. C'est ce que fait Tag sur Long, le pilier droit.
Vous vous rendez compte?
Quand Antonio en fait 31.
Mais il fait le double, Antonio. Antonio ou Aldrit.
Imagine, à poste égal, c'est incroyable.
On est chez les. À poste égal, oui.
Nous, on marche sur la tête, là, aujourd'hui. De toute façon, je pense que, j'espère qu'il y a un jour, il va y avoir une loi par rapport aux commotions, par exemple, qui interdira carrément de dire.
Une raison de santé.
Une raison de santé qui dira, mais on fera que 20 matchs et basta. Et comme ça, il n'y aura plus de problème.
C'est clair le temps qu'on met. Rappelle-toi, une seconde. C'est curieux le temps qu'on met. Rappelle-toi les boxeurs avant, ils faisaient 10, 12 combats par an. Mec, ils étaient complètement insolés.
Oui, ils étaient 15 secondes.
Même eux, on ne peut pas penser, il n'y a pas que des Einstein dans les fédérations. Là, et puis, c'est interdit maintenant. Les mecs, ils font très peu de combats. Il n'y a que nous qui continuons. Et je t'en rajoute un.
Je me demande comment c'est pas être autorisé de faire jouer un joueur 30 matchs par an.
Pierre Laurent, ça me paraît absolument incroyable.
Je vais être seul, j'ai pas du tout les mêmes arguments que Denis et Vincent. Je dis pas que les joueurs ne jouent pas assez, mais je trouve qu'on prend le problème à l'inverse. Parce que qu'est-ce qui fait le sel au quotidien de notre rugby? Le top 14. Et là, ce que propose Grégory Aldrit, et du coup, comme c'est les fédérations qui ont le pouvoir, ça veut dire moins de matchs encore en championnat. Moi, je veux pas d'un super rugby en top 14 avec des tribunes vides. Ça joue devant 20 spectateurs. On parle de l'Irlande. Quel championnat ils ont? La Ligue 7, pareil. S'il y a 10 spectateurs, c'est pas seulement une histoire de
mais pour savoir si tu veux faire la Coupe du Monde.
Attends, je vais jusqu'au bout, Tony. Mais ok, limitons le nombre. Là, je suis d'accord avec Pierre. Limitons le nombre de matchs, mais supprimons par exemple tous ces matchs amicaux qui existent. Les tournées.
C'est interdit,
les tournées, j'ai pas peur. Les tournées d'été, empêchons-les, faisons faire
France
aujourd'hui, de
développement. Il règle les tournées.
Non, mais parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est les clubs qui payent en bowling. Sauf que la richesse du rugby français, c'est le top 14. On est les seuls au monde. Imposons notre vue au monde du rugby. C'est le seul championnat qui tient la route.
On s'en fout de ça.
Qui paye
les joueurs? On parle. Oui, mais d'accord. Alors on conserve ça. Qui paye les joueurs? Mais réfléchissons comment on fait jouer pour les mecs. Parce que
limitons le nombre de
stades, ils sont pleins, tout ça. Bravo. Ben les stades, ils seront pleins de mecs sonnés complètement.
Dans 20 ans, ils ne se rappelleront pas
où c'est qu'ils ont joué. Les mecs, mais si t'as joué Aldrit, t'as joué à La Rochelle.
Vincent, tu m'as pas écouté jusqu'au bout. Limite.
Pierre-Laurent,
limitons les matchs internationaux. Pour moi, l'effort doit être fait par les fédérations.
Mais non, c'est pas dommage qu'il faut. Mais écoute-moi, t'as pas compris. C'est pas dommage qu'il faut enlever. C'est 10 matchs qu'il faut enlever. Il faut qu'un mec qui dépasse pas 20 matchs.
Déjà, si t'enlèves les tournées, ça fait 5.
C'est pas de passer de 20, de 30 matchs ou 32 à 29 ou 28. C'est ça qu'on voulait. C'est pas ça. C'est plus que 30 matchs. C'est enlever. Oui, c'est 35 matchs.
Il faut jouer 20 matchs.
Il faut jouer 20 matchs ou 22 au taquet et encore des coups de 50 minutes, 60 minutes. C'est un sport qui est comme ça. Question, on n'a pas de chance. Ce sport-là qui te sollicite physiquement et où tu as besoin d'énormément de contrats professionnels, c'est pas un sport où économiquement, mais t'es énorme. Et donc, c'est un peu contradictoire. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc, il faut limiter les mecs à 22 matchs par an. Et Eric, c'est tout.
J'ai l'impression qu'on le fait régulièrement, ce débat-là. Chaque fois. On explique qu'il faut baisser le nombre de matchs. On arrive même à un quota de nombre de matchs, puisque Vincent nous dit que c'est pas plus de 20, plus de 20. Donc on arrive à ça. Et c'est un peu pareil pour la politique là, tu sais, puisqu'aujourd'hui il faut faire des économies. Alors tout le monde veut faire des économies, mais qu'est-ce que tu fais dans ton secteur? Donc là, parce que en réalité, pour faire des matchs à moins, c'est facile. Hein, tu prends la compétition la plus importante, celle-là, elle fait le plus de matchs. On est d'accord quand même, et je suis d'accord que c'est le top 14 qui est unique parce que c'est un championnat de ville, c'est un championnat de club historique. Moi, je vous dis qu'il faut passer à 12, mais vous dites que c'est compliqué. Bon, alors on reste à 14. Mmh. Alors ça fait 26 matchs. Allez, déjà là, on a dépassé avec notre truc. Donc après, vous avez une Coupe d'Europe qui ne veut rien dire. Voilà, une Coupe d'Europe où tu joues deux fois contre une équipe, puis après tu rejoues contre une autre. Puis après, tu joues contre l'autre qui s'est qualifié.
Et à la fin, la finale, c'est la même que celle du top 14.
Et à la fin, la finale, c'est toujours les quatre mêmes qui sont en finale d'une année sur
c'est
deux.
C'est Toulouse de Rochelle.
C'est, tu vois, c'est-à-dire que voilà. Donc là, à un moment donné, arrêtez. Ouais. Mais si on vous dit arrêtez la Coupe d'Europe, vous dites oui, mais ça fait des sous. Oui, vous voulez les sous. Alors après, on vous dit les test matchs. Parce que bon, les test matchs, c'est pareil. Ils servent à. Mais non, mais c'est des sous. Mais non, mais vous voulez les sous.
Qu'est-ce qui rapporte plus de sous? Eric, t'as raison. Ne croyons pas que Canal va être gentil jusqu'au bout. Parce que déjà, imaginons Canal+. Déjà, les dimanches.
C'est quoi, on a qu'à fermer.
Non mais Vincent, les dimanches d'affiches de top 14, quand il y a des doublons, où des équipes font tourner, où il n'y a pas les stars, où ils sont mis au repos, ça peut arriver, ça arrive toujours. La direction de Canal+, qui met beaucoup d'argent, n'est pas forcément ravie. Tu leur dis qu'on va limiter le nombre de matchs des stars comme Dupont en top 14, à un moment, Canal, ils vont pas baisser l'argent qu'ils donnent.
C'est simple, le nerf de la guerre, celui qui peut vous donner, voilà, c'est l'oseille, on est d'accord. En plus, vous aimez l'oseille, c'est connu.
Nous, on est des
gens modestes. Ça nous est tombé dessus.
On n'aura pas.
Mais donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ceux qui peuvent vous donner de l'argent, c'est les diffuseurs. Et le diffuseur, si vous êtes malin, si vous faites un championnat actif, si vous mettez pas, alors c'est pour ça que je vous dis, allez le super 12 là, je te l'explique, mais tu vas me dire
vas-y,
non.
Mais
les matchs plus intéressants. Douze équipes et vous arrêtez. Vos phases finales. Et voilà, c'est tabou. Mais ça fait combien de matchs en plus?
C'est tabou parce que on enlève la Coupe de France.
Est-ce que c'est possible de supprimer les phases finales du top 14?
Non, c'est impossible. En théorie, Eric a raison, sa théorie tient la route, mais je vais lui dire, quand on est passé du top 16 au top 14, et là, je vais taper sur les clubs, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté, et il y avait demi-finale, finale, on a rajouté une phase de barrage, un tour de, on avait gagné dalle, ouais. Mais on en a enlevé, on a rajouté barrage.
Mais c'est dommage, à un moment donné, ça fait une date de plus.
Et on a fait pareil en Coupe d'Europe.
Si on a affaire à des neuneux, on pourrait y faire.
Je vais te dire, tu sais quoi? Parce que maintenant, je les pratique, les sangliers, là, puisqu'on va faire les émissions sur les demi-finales. On va faire les émissions sur les demi-finales. Pendant une semaine, ça va. Et donc, je sais pourquoi, moi, ça leur plaît, les phases finales. Parce que. Parce que les supporters, ils s'en vont de la maison pendant 3 jours, ils sont godins, ils se murgent, parce que la plupart des mecs, ils se murgent. Une fois sur deux, ça se passe dans le sud-ouest, donc bim, petit coup au casse-canne, et en avant Guingamp. Et les journalistes, les supporters et les suiveurs, je pense que Pierre-Laurent,
est-ce que c'est pas envisageable de traiter l'histoire d'un point de vue économique, c'est-à-dire de dire, voilà, les internationaux ne peuvent pas jouer plus de tant de matchs et leur salaire ne peut pas dépasser telle somme, ce qui limitera l'impact économique de toute façon, puisque ça te permettra éventuellement de compenser avec des contrats de joueurs moins réputés, mais... parce qu'aujourd'hui un rugbyman international gagne bien sa vie. On va pas dire
un international gagne bien sa vie.
Le danger, c'est pour les clubs, c'est pas pour les joueurs. Est-ce que ça peut pas marcher, ça, Pierre-Laurent, de dire aux internationaux, l'inflation des salaires est finie, vous allez gagner votre vie, mais pas au-delà de telle somme.
Les carrières sont trop courtes, Pierrot.
La première partie de ta phrase, Pierrot, oui, elle peut se faire assez rapidement. On se dirige vers ça tout doucement. On va arriver à la licence à points ou je sais pas quoi. Il y aura une limitation du nombre de matchs. Plus 30 que 20. Ça fera pas plaisir à Vincent.
Et pour les assurances, d'ailleurs.
Mais après, sur la deuxième partie, où là, Denis a raison, c'est aussi parce que l'impact financier d'une présence en équipe de France est trop importante. C'est à peu près un tiers du salaire.
Mais tu peux imaginer que la Fédé verse des primes aux joueurs plutôt qu'au club, par exemple.
Oui, mais les primes, tu veux faire rire, le delta, il est énorme. Ils n'ont pas vocation à financer les internationaux, les fédérations.
Mais dans les fédérations, ça marche comme ça.
Mais non, c'est pas pareil. Les Irlandais, par exemple, l'international irlandais touche beaucoup moins qu'un international français. C'est ça qu'il faut voir. Je crois que c'est du simple double, non? C'est ça.
Je pense qu'il faut que Gattal, il avait l'impôt pour le rugby.
Oui, tout à fait.
Les Irlandais ne touchent pas beaucoup.
C'est pour ça qu'ils veulent tous venir jouer en top 14, les Anglais, les Irlandais.
Ils se coupent de la carrière internationale.
Pierre-Laurent, quelle est la une du Midi Olympique de demain?
Eh ben, on a William Serva qui a rencontré nos lecteurs lundi soir et donc qui parle un peu notamment du sujet sur le fait que les internationaux jouent-ils trop ou pas. Donc il donne quelques petits indices sur qui sera en tournée en Argentine, parce que voilà, il y a deux tests en Argentine, et comme ça suffisait pas aux sélectionneurs, on en a rajouté en semaine face à l'Uruguay à Montevideo. Voilà, comme quoi il faut toujours que ça soit les mêmes qui fassent les efforts, c'est-à-dire les clubs du top 14.
Merci beaucoup, Pierre-Laurent. On lira le Midi.
Merci à vous.
Attention, dans un instant.
On a traversé le truc, là.
Ah oui, là, c'est réglé, là.
Non, on va pas parler de ceux qui donnent de l'argent dans les clubs, et ceux-là, ils sont pas très contents de voir les internationaux partir.
Moi, je suis sûr que si vous le mettiez en concurrence à votre championnat, vous gagnerez plus d'argent que les droits télé que vous avez. Hein.
La folie marchand à Indianapolis, on y est en direct dans deux minutes sur RMC.
Merci, Eric.
Oui.
On y va, Vincent. Allez, à tout de suite.
Oui, après, si vous êtes neuneux, vous n'avez pas une
Oui,
ça vous a pas coûté cher, vous.
Allez, on revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h32, on y revient au Mastic avec Eric Dimeco, avec Denis Charvet, Adrien Hugo et mon petit Pierrot. Dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, Vincent, nous allons débattre de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a l'attitude d'un capitaine en équipe de France et au Paris Saint-Germain? 32-16. Tout de suite, direction Indianapolis.
RMC, le Mosca
Zap.
On retrouve en direct Julien Richard, notre envoyé spécial au final universitaire de la natation masculine américaine.
Salut, super Moscato Show.
Ça patauge.
Comment on peut?
Alors donc, cette semaine et en cette fin de semaine, on va vivre les finales NCAA. Première soirée hier, premier record pour Léon Marchand.
Oui, sur le 200 yards nage libre. C'était au départ du relais avec Arizona State, donc son université. Record universitaire, en gros, c'est un record du monde, hein, puisqu'on ne nage en bassin de 25 yards que bah, ici, aux États-Unis. C'est son 5e record universitaire individuel. Ça confirme ses très gros progrès hein, sur le crawl que l'on a vu depuis le début de l'année pour Léon Marchand, que l'on a vu assez facile aussi ce matin, en série du 500 yards.
Et alors, ce qu'a confirmé également la soirée d'hier, c'est que Léon Marchand, c'est l'attraction de ces finales.
Oui, ça c'est l'ambiance dans les tribunes. Je vous le disais hier, hein, les Américains ont rebaptisé cette March Madness.
Marchand Madness.
La folie Marchand au bord du bassin d'Indianapolis. Même ses adversaires ont les yeux rivés sur le phénomène français.
J'adore sa façon de nager, c'est magnifique. Il fait évoluer notre sport sur un autre niveau et c'est beau à voir. C'est tellement fun de le voir casser toutes ses barrières. Il rend ce sport fun à regarder et ça le fait grandir.
Avec toujours cette comparaison, hein, Neil Studd entraîne l'université de Floride, écoutez.
C'est le nouveau Michael Phelps parce qu'il a tellement de points communs, tellement de courses, d'options, d'armes comme Michael.
L'étudiant d'Arizona State a tapé dans l'œil des Américains et peut-être plus seulement du tout petit milieu de la natation finalement. En témoigne la présence ici à Indianapolis de Jenny Vrantas qui est journaliste au New York Times.
Avoir battu le dernier record de Michael Phelps l'été dernier a marqué les esprits des Américains. Il n'est pas encore totalement connu du grand public, mais il le sera certainement après les Jeux Olympiques.
Voilà, et sur cette route vers Paris, Léon Marchand pourrait encore, en tout cas à l'occasion de marquer un peu plus les esprits hein, cette semaine à Indianapolis.
Julien Richard en direct d'Indianapolis, quelle folie quand même. Hein.
Incroyable.
Il y a le New York Times qui est venu le voir.
Il doit vivre quelque chose d'impressionnant. C'était pas le speaker Eric Delhomme qu'on a entendu derrière là.
Ouais, c'est ça. Mais comment tu l'as reconnu? Tu l'as reconnu? Tu as vu cet accent de Marseille?
Oui. Écoute-moi, il doit plus savoir où il habite, hein, ce gars-là.
Ben, c'est
non, justement, il sait toujours où il habite. C'est ça qui est beau. Ouais.
C'est un des dangers. C'est gérer ça parce que le talent il l'a. Il peut être champion olympique, mais il faut juste pas exploser, c'est tout.
Ouais. Ah oui, là tu sais pas, il a 20 ans, donc sais-tu, peut-être qu'il est dans sa tête, ça doit être
quelque chose. À 20 ans, t'aurais eu le New York Times qui venait faire un papier sur toi.
Il se serait assis au bord de l'Hudson et il aurait fait une interview au bord de l'Hudson.
Mais là, du Tarn.
À 20 ans, c'était la dépêche du midi.
Non, mais souvenez-vous, ce que dit Pierrot n'est pas bête.
Pourquoi toi, c'était l'Herald Tribune, Henri, ou quoi?
Souvenez-vous, la folie, alors c'était la première, mais Laure Manaudo qui parfois a eu du mal à vivre tout ce qui se passait autour d'elle.
Il y a des fois quand il se lève, il ne doit pas savoir où il habite. C'est ce que je te dis, il y a 20 piges, le fracas qu'il doit prendre dans la tronche, le New York Times, tout ça, tous ces mecs, tous ces jeunes dans ces universités, que c'est terrible ces universités, c'est des milliers de gamins qui l'applaudissent et tout. Je veux te dire qu'il faut qu'il soit bien campé hein, sur ses appuis. Hein.
Alors on zappe la natation, on remercie Julien, on reste dans le sport américain, on suit les dossiers Vincent. Et alors là, attention, nouvel épisode, Rizamit, Vincent, va signer... Voilà. Écoute-moi bien, il va signer à Kansas City, c'est-à-dire qu'il va signer chez les doubles tenants du titre.
Hein. C'est
la meilleure équipe actuelle, donc l'ailier du Pays de Galles, du 15 du Pays de Galles. Donc, en signant à Kansas City, c'est pas fini pour lui. Hein. Il va faire le camp d'entraînement cet été où il doit gagner sa place parmi les 53 joueurs qui seront en contrat la saison prochaine. Ils seront 90 au départ. Et donc, ils en éliminent pratiquement la moitié. Il sera dans ce camp d'entraînement-là pour intégrer les 53.
Et sur deux qui pète.
Un peu moins d'un sur deux.
C'est Koh-Lanta, quoi.
Il va être testé à deux postes. Couvreur-receveur. Couvreur-receveur, ça c'est ce qui était prévu. Mais aussi, retourneur de coup de pied. Non, retourneur de coup de pied.
Ah oui.
Et ça, c'est très intéressant parce que les règles vont changer. La NFL va obliger à plus relancer. Parce que l'an dernier, ils ont remarqué qu'une majorité de ballons n'étaient pas relancés.
En fait, il n'y aura plus d'arrêt de volée.
C'est-à-dire et donc, pour lui, vu ses qualités, ça peut tout à fait lui correspondre, Vincent.
C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire le marque derrière.
Exactement.
Ah ouais, là, tu es obligé de galoper comme un petit lapin.
Ah ben là, lui, ça va lui aller comme un gant. Ah oui, parce que c'est quand même.
Après,
c'est ballonnote.
Voilà. Comme il vient du rugby, il a peut-être des pinces de crabe, non, pour acheter
tu rigoles.
Il a toutes les aptitudes pour réussir. Denis, avec cette nouvelle règle, lui, c'est tout à son avantage. Tu prends un mec comme Colby. Colby, c'est le prototype du mec, je me dis, qui serait extraordinaire.
Ces mecs là qui ont des appuis.
Avec cette nouvelle règle, ça change beaucoup de choses pour eux, pour ces joueurs-là.
Alors après, c'est pas comme une relance au rugby, parce que t'as le droit, mais tu fais pas de passe. Ce qui veut dire que bon, tu dois gagner un maximum de yards sur tes appuis, sur tes cadrages des bords, mais face à toi, t'as une armée de 10 mecs qui sont là pour t'attraper.
Oui.
Hein.
Oui, non, mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'il faut savoir courir avec la protection des autres.
Exactement.
C'est-à-dire, des fois, t'as des trous qu'il te faut pas prendre. Tu vois, c'est difficile, des fois. Quand t'as des trous que tu peux pas prendre, t'es là, pim, il te faut ralentir, accélérer. C'est pas une relance, t'es pas contre une équipe comme ça. Là, c'est plus difficile. Enfin, c'est plus difficile. C'est pas que c'est plus difficile.
C'est des automatismes, une vision du jeu de tes partenaires à prendre. Il va falloir qu'ils travaillent deux fois plus en vitesse accélérée que les joueurs de foot américain historique.
Non, c'est
apprendre les codes. Je pense que lui, après, dans le timing,
il a des appuis, le mec.
Le mec, il est extraordinaire. Je t'assure que ce mec-là, je pense qu'il va réussir.
Il a fait 10-28, un truc comme ça. C'est des mecs. Ils ont des camions, des mecs qui vont très très vite. Mais lui, il va quand même très vite. Et puis, ça, c'est vraiment. La relance, c'est un truc du rugby. C'est vraiment ce qui peut le rapprocher énormément rapidement du jeu du football américain.
Mais il va prendre un contrat, Pirou, non?
Mais c'est pas encore certain. Il faut qu'il gagne sa place.
S'il est pris, tu le sais, le contrat, c'est rookie.
Il a touché un vrai contrat.
On parlait de 900 000 dollars s'il était dans l'équipe d'opposition, là, dans l'équipe d'entraînement, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là. Je pense que s'il est dans l'équipe qui joue, il sera beaucoup mieux payé que ça. 2-3 millions.
On zappe Riz Zamit et on va revenir à la quête du porte-drapeau français. Une nouvelle candidate déclarée, la favorite de Vincent Moscato, Mélina Robert-Michon.
Forcément, ça me branche. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que les Jeux, ça représente énormément de choses pour moi. Ça a guidé plus de 20 ans de ma vie. Ils doivent me choisir si mon parcours les inspire, si ma personnalité leur plaît. Je pense que de toute façon, je suis comme je suis. Je ne changerai pas ça. Je pense que chacun a une définition un peu propre du rôle de porte-drapeau, de qui ferait un beau porte-drapeau. Et voilà, ça doit correspondre à leur idée à eux. En tout cas, moi, je serais très fier de les représenter, de les emmener tous avec moi sur ces Jeux pour que ça soit une belle réussite.
Ce sera tout simplement ses 7e Jeux Olympiques, ce qui est tout simplement hallucinant, avec une médaille d'argent, on le rappelle, à Rio, et deux médailles mondiales.
C'est pour ça qu'il faut que ce soit elle.
Il n'y a pas de débat là.
J'espère que le lobbying a marché. Hein.
Bah, c'est pas certain, hein, Eric.
Non, mais
c'est pas certain parce que
je parle de notre lobbying. Ah, on est quand même une force de frappe importante.
Elle n'a pas peut-être la notoriété qu'aurait qu'elle notre.
Ouais, mais l'histoire.
Après, attention, la notoriété, c'est pas toujours le plus important pour être porte-drapeau vu que t'es choisi par le mouvement olympique. Là, c'est les athlètes qui vont voter.
Oui, elle est en pleine dedans. Elle est en pleine dedans.
Non, mais il faut espérer parce qu'elle le mérite, oui.
Ça boucherait la porte de Renault, la ville.
Exactement.
Mais son sport qui est connu, il est quand même très peu connu, donc ça lui filerait quand même, ça serait une vraie récompense.
Qu'il
a quand même bavé, qui a jamais gagné un franc, qui a toujours fait des efforts surhumains, qui est mère de famille, qui a 40 marrons, ça serait génial.
Mais Vincent, tu auras de l'influence et le mouvement olympique t'écoute. Je pense que tu auras été décisif dans cette
opération.
Allez, un dernier mot, Vincent. Un mot de boxe. Christian Billy s'est associé avec Bob Arum. Alors, on pensait que ça allait accélérer sa carrière. Son prochain adversaire est connu et pour le coup, c'est pas du tout un cador. Marc Efron, ça sera le 25 mai à Shawinigan au Canada. Il n'est pas dans les 15 meilleurs mondiaux dans aucune des grandes associations de boxe reconnues. Et il a un bilan de 34 combats avec 30 victoires, 24 par KO et 3 défaites. Donc c'est encore un combat d'attente, a priori à sa mesure. Hein. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que notre Kevin Lele Sadjo a fait un bond incroyable dans les classements. Tiens-toi bien, Kevin est désormais classé 4e à la WBC, 7e à l'IBF et 8e à la WBO. Il n'est pas dans le classement de la WBA.
Ça sent le championnat du monde, mais je pense que là, il fait le métier.
Christian,
il est obligé de faire le métier. Bon, Barom, il faut qu'il gagne ses sous. Donc, il fait des fois des combats intermédiaires qui ne le font pas trop avancer, mais il prend 100 000 dollars, 150 000 dollars. Il faut qu'il bouffe quand même. Donc, c'est plutôt bien. D'entrée de jeu, il avait Bob Arum, il le fait boxer sur un mec un peu facile. Il sera pas trop en danger, mais il prend quelques sous quand même. Mm-hmm. Donc, il fait partie sûrement d'une réunion. Donc, il fait son métier, tout simplement.
Ce sera le 25 mai et ce
ce sera au Canada. En attendant mieux, bien entendu, on lui souhaite, Vincent, de tout cœur. On aimerait bien le voir, ce champion du monde de Christian.
Ah, on aimerait le voir, oui.
C'est l'heure du deuxième journal moyen sur RMC.
La deuxième édition, un peu d'histoire des Olympiques de Marseille, Paris Saint-Germain, PSGOM. Un épisode dont on ne parle pas assez souvent. On parle beaucoup de la période d'Éric, forcément. Il y a une époque poétique, mais il y a l'époque Fiorez. Et Pierrot, ça avait fait beaucoup parler des supporters du Paris Saint-Germain et de l'OM. Un excellent Fiorez à venir dans le journal moyen pro, deuxième édition.
Allez, on revient tout de suite. Il est 16h43 dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h47, le Super Moscato Show. C'est le journal moyen, deuxième édition.
La deuxième édition, c'est une semaine spéciale. Le classique, c'est dimanche. Un peu d'histoire d'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Un stade nouvelle génération qui fait parler en Angleterre. Vous allez me dire si vous aimez ces nouveaux stades. Et puis 16h55, première citation du Kikadi du jour. Vous êtes prêts? Ah, je vais juste vous dire un truc. Il ne faut jamais banaliser le journal moyen.
Voilà, il faut pas banaliser, même si on avait une équipe, évidemment, sur le papier qui était plus faible, qui a été réduite à 10.
Et le sélectionneur ne me contredit pas. Il faut jamais banaliser le journal moyen. Vous écoutez RMC. C'est le 1772e journal moyen de l'histoire du Moscato Show qui n'est pas plus faible.
Direct live en plein milieu de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
C'est l'instant classique, c'est l'instant histoire, c'est l'instant olympique de Marseille, Paris Saint-Germain.
Un coup de poing, et voilà. Voilà. Tout allait si bien. Et oui, Dimeco, procès du droit. Allez. Et ben voilà.
Et voilà. Alors, je précise aux plus jeunes que c'était pas un combat de boxe commenté par Charles Biry, c'est du foot, c'était un PSGOM. Petit crochet du droit,
c'est
Eric.
C'est un crochet du droit.
C'était où
c'est
au, bon comme le droit. Ça, c'était au Parc des Princes. Voilà, ça, tu t'en souviens, Eric.
C'est que j'avais chopé. C'est sur qui
Colter. Je crois que c'est Colter qui a pris. Ouais. Petite page imitation.
Ouais, on en a pris, on en a donné.
Petite page histoire et imitation dans ce OM PSG. J-3 avant le match, dimanche 20h45 sur RMC, c'est la 27e journée de Ligue 1. Jérôme Rotten et toute sa bande invitent des acteurs de ce classique qui ont marqué l'histoire de cette rivalité. Et Jérôme et Jean-Louis Tour recevaient Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez, ancien joueur des deux clubs. En 2004, le PSG est entraîné par Vahid Halilhodžić. Fabrice Fiorez joue au PSG. Et dans les derniers instants du mercato d'été, il signe à l'Olympique de Marseille. Fiorez fâché avec Vahid car il a refusé de devenir capitaine du Paris Saint-Germain. Donc Fiorez commence à raconter cet épisode, mais au tout début, c'est pas très clair.
Au milieu du foot, comme peut-être dans d'autres milieux, le problème, c'est que l'hypocrisie, les faux culs, en fait, ils ont pas leur... du moins, malheureusement, ils ont leur place et moi, j'avais pas la mienne. Donc voilà, parce que quand on dit les choses, on dit la vérité, parce que
tu
quand
parles on a de qui, un coach...
Donc heureusement, il y a Pascal Olmeta qui s'impatiente, qui dit « Tu parles de qui, Fiofio ?» On dit la vérité, les copules, les machins, les trucs. Et donc du coup, excellente idée de Fiorez, franchement, qui est pas mal. Il répond en imitation à Pascal Olmeta. Qui est le responsable de tout ce bazar, Fabrice?
Ils ont leur place et moi j'avais pas la mienne. Hein donc voilà, parce que quand on dit les choses, on dit la vérité, parce que
tu
quand
parles on a de qui, un coach...
De putain coach, merde Fiorez, moi donner valorisation à toi. Toi partir, moi vomir, merde Fiorez.
C'est
magnifique. Il est bon.
Incroyable.
C'est très drôle. C'est très drôle.
Au quart de tour, il part sur une imitation de coach Vahid, Vahid Halilhodžić. Alors il raconte que Vahid lui dit tu vas être mon capitaine à l'époque. Et que Fiorez explique quand tu es le capitaine de Vahid à l'époque, tu dois rapporter tout ce qui se passe dans le vestiaire au coach. Tu dois être un peu la balance, la top. Ah ouais. Et donc il a dit non, mais moi je voyais pas. Je lui ai dit non, je me sens pas de faire ça. Donc vexé, ça se passe mal. Et il signe à l'Olympique de Marseille. C'est épisode incroyable.
DU, qui était un peu son pote,
oui,
avait signé déjà à l'OM,
oui,
depuis Paris.
Donc histoire incroyable, ouais, faciliter les choses. Oui. À Marseille, vous l'aviez vécu comment ça, Eric? C'était un non-événement finalement.
Ouais,
ça a beaucoup plus parlé à Paris en plus.
Ouais, quand même, ouais.
Parce que bon, c'était pas. Voilà, pour vous, vous accueillez les joueurs, ils jouent,
c'est
basta.
C'est très marqué PSG. Oui, très marqué.
Fiorez, il a été un peu fait par Luis. C'était un joueur talentueux, mais je crois qu'il jouait à Guingamp avant de venir à Paris. Et à Paris, il a explosé.
Souvenez-vous.
Donc quand il est parti à Marseille, c'était une trahison.
Et souvenez-vous, à l'époque, le vrai Vahid, en conférence de presse, on est le lendemain de l'annonce du départ de Fiorez à Marseille. Conférence de presse, un journaliste comme Pierrot à l'époque, hein, tu pouvais y être, Pierrot. Vaïd, Fiorez à Marseille, quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle, coach?
Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
C'est pas un truc, hein, c'est le vrai Vaïd qui a
c'est
dit
énorme.
Ça.
C'est énorme.
Incroyable, Vaïd. Ça a animé le début des années 2000. Voilà.
Mais Fiorez, je pense qu'il est, il reste apprécié à Paris.
Oui.
Contrairement à DU, je pense que personne lui a.
C'est le prêtre.
Oui, parce que lui était vraiment parti de son plein gré.
Ouais.
Fiorez, bon, je pense que Vaïd est complètement dingo aussi. Attention.
Ouais, voilà, ouais.
Ouais. Faut avoir un conscience de ça quand même. Hein.
Ouais. Toujours dans Rotten sans flamme, tiens, hier, ils ont reçu un auditeur qui s'appelle Alexandre, qui a ce qu'on appelle le sens de la répartie. C'est pas facile à la radio quand on est au téléphone avec tous les gars qui font de la radio tous les jours. Alexandre est supporter de Valenciennes, dernier de Ligue 2, mais Valenciennes est en demi-finale de la Coupe de France. Donc Alexandre participe au débat sur les matchs amicaux des Bleus. Et à la fin, Jean-Louis tourne le chambre et ça tombe sur Jérôme Rotten. Très belle répartie, ce qu'on appelle une balle perdue pour Rotten.
En tout cas, il faudra nous expliquer comment on peut être dernier de Ligue 2 à 13 points du premier non relégable et demi-finaliste de la Coupe de France. Ça, c'est Valenciennes.
Ah bah, faudra m'expliquer aussi comment on peut bouder les plus grands clubs européens après avoir été en finale de Ligue des Champions pour aller dans un Paris Saint-Germain pourri.
Quoi?
Merci, c'est
moi,
gratuit.
Ça, c'est pour moi.
Allez, tu parles de qui là?
Ah bah, il parle de moi.
Jérôme,
ah, il parle de moi.
Il y en a qu'un qui a pu faire ça.
Tout le voilà. Monde a pris. Tout
voilà, merci Alexandre. Ouais. Tu rappelles quand tu veux. Jérôme, il n'a rien demandé.
Ah ouais.
Il prend un énorme taquet. Il faut dire que Jérôme a refusé le Barça, Chelsea et la Juve après Monaco, après la finale de Ligue des Champions.
PSG.
Pour aller dans son club de cœur, le Paris Saint-Germain. Donc,
c'est vrai que c'est un choix de carrière curieux, mais dicté par le cœur et ça se respecte.
La passion, le cœur.
Tu te rends compte non, mais ce qui est fou, c'est qu'il était quand même dans une super équipe de Monaco. Ils sont finalistes de la Ligue des Champions. Il y participe grandement à la saison. Donc, c'est bizarre, il a des super propositions. Il vient au PSG faire les pires années du PSG.
Et oui,
c'est ça qui est fou.
C'est terrible.
Ouais. Parce qu'il mais regarde, il est stable comme joueur et réfléchi quand même. Il avait son recul.
L'année où il signe, le PSG était pas mal et ensuite c'était la dégringolade.
Oui, voilà, c'est le...
Mais de notre côté, regarde aujourd'hui, il a une place particulière dans le cœur des supporters parisiens.
Non, mais malgré
tout,
c'est pas un reproche,
de par son
mais
passé,
c'est
de par son histoire avec le.
Il aurait non, mais il est mal tombé, tout simplement. Après, tu tombes sur une génération qui marche pas.
Non, mais après, t'es quand même, les gars, le choix du cœur te fait faire des fois des bons choix. Quand même,
9 mecs sur 10 seraient partis au Barça.
Bien sûr,
à la Juve ou
chez le troisième Chelsea. Quand même, quand tu fais du sport, tu veux faire une carrière, quand même. Ne me dites pas, ok, il a fait le choix du cœur, mais ça t'amène des fois à faire des fèves, et ça c'est une grosse fève.
Tu sais de quoi tu parles?
Ouais.
Non, mais je te le dis, bien entendu.
Sans
bien
transition,
entendu, je sais de quoi je parle.
Retour à Marseille, Eric. C'est une info de l'équipe et on va te présenter nos excuses parce qu'on s'est beaucoup moqué de toi quand tu nous parlais des Spartiates. Vous savez, c'est l'équipe de Marseille de hockey sur glace qui dispute la Ligue Magnus. Tu nous as un peu saoulé avec ça, Eric, on s'est moqué de toi.
Ouais.
Mais ils sont sur un projet incroyable, ça cartonne tellement le hockey à Marseille que l'équipe nous apprend qu'ils vont monter un projet pour faire un ou plusieurs matchs de championnat au stade Vélodrome. Au stade Vélodrome en plein air en décembre prochain, c'est incroyable. Le record est à 25 182 spectateurs.
Oh,
à Lyon, brûleur de l'eau de Grenoble. Tu crois qu'ils peuvent le battre?
Mais ils vont le battre parce qu'ils sont montés donc cette année par un concours de circonstances, puisqu'il y a une équipe qui a déclaré forfait et donc ils se sont portés candidats. Ils arrivent donc à play-off.
Quart de
finale. Et ils ont la meilleure affluence de la saison.
Comme ils font 4-5 000 de
moyenne,
pratiquement 5 000. Ouais. Bah, en réalité, il faut le play parce qu'elle est à 5 000 la patinoire. Hein. Et donc, ils ont tellement de succès et ils ont fait une telle belle saison qu'ils se disent mais on est capable de remplir 10 000. Parce que là, pour les playoffs, là, sur les derniers matchs, là où il y a eu. Mais ils auraient rempli 10 000, ils auraient vendu 10 000, 15 000. Donc là, ils s'enflamment en plus contre les gros. Là,
le seul doute, c'est les hivers sont de plus en plus doux à Marseille, c'est en plein air de maintenir.
Non, mais là, s'ils veulent remplir. S'ils veulent remplir, ils le font ce match en plein mois d'août. Tous les mecs n'ont pas la clim, ils vont passer 2 heures au stade de Vélodrome.
Ouais, c'est une solution.
Kikadi.
C'est une solution.
Hein. Kikadi, donc nous avons réhabilité les Spartiates
dans
les moyens, Eric. Hein. Ça y est.
Bravo, Adrien.
Première citation du Kikadi, première question du Kikadi, chacun pour soi pour la première manche. Deuxième manche à 17h45. Samedi et dimanche, ce week-end qui arrive, dans quelle ville se trouvera Teddy Riner?
Antalya.
Antalya, en Turquie, oui.
Oh là là, c'est une balle. Oh,
c'est une machine. Mais que s'est-il
c'est
passé,
machine.
Denis. Il est là, papa.
Mais que s'est-il passé, Denis?
Bah, il s'est passé qu'hier, il n'en a pas trouvé une, ah, et puis là, aujourd'hui, ce sont 5 milliards.
J'en ai trouvé une hier.
Allez,
ça, c'est parce que tu bois plus.
Non, mais je vais travailler, tout simplement. Ouais. Bravo.
Antalya, voilà. Teddy Riner.
Le premier point pour Denis Charvet a gagné.
Prendre des médicaments, ça doit le booster. Oui. Je suis sûr qu'il prend du Viagra pour les alvéoles. On va te faire pisser.
Tu crois que ça marche le Viagra pour le Kikadi?
Oui, pour les artères. C'est pour le sang.
Pour les artères.
Bon, là, c'est que lui, le sang, il va pas aller à la tête, je vous le dis de suite.